C'est moi. Je sais pas nager. Ah ouais. Enfin bon, maintenant je sais à moitié nager. J'ai un peu appris entre-temps. Avant, j'avais peur de l'eau. On me mettait dans l'eau, je savais faire peut-être allez, 10 mètres en faisant la nage du chien. Mais si vous me mettez au milieu d'un lac ou quoi, je paniquais, c'était fini. J'avais peur de l'eau. J'avais peur que quand je suis dans l'eau, je coule. Le fond m'attire et que du coup, je m'épuise à rester à la surface, mais je coule. Du coup, je me suis dit, il faut que j'apprenne à nager. Alors, il y en a plein qui m'ont donné plein de trucs pour apprendre à nager. Mais le truc qui m'a aidé, c'est de prendre un abonnement à la piscine et puis d'y aller. Est-ce que j'ai découvert à la piscine ? C'est qu'il faut accepter de couler. Et là, on se rend compte que l'eau, en fait, elle nous porte. Juste ce qu'il faut pour faire un petit battement de main et hop, la bouche, elle sort de l'eau. J'ai dû apprendre à couler pour nager. Ça, c'est re-moi. C'est moi que j'ai appris à faire l'escalade, que j'ai appris à faire du rappel. Vous savez un peu ce que c'est, là ? Qui connaît ça ? Personne ? 1, 2, 3. Bon, en gros, l'escalade, vous connaissez, vous avez un baudrier, voilà, il y a une corde qui vous tient, tout ça, vous grimpez. Faire du rappel, c'est descendre avec la corde le long d'une paroi. Tout simple. Mais par contre, la première fois qu'on fait ça, c'est vraiment une sensation très bizarre. Je ne sais pas s'il y en a qui font ça les doigts dans le nez, je ne pense pas. La première fois qu'on descend en rappel, on est là, avec le baudrier. Et on a une seule peur, c'est que on va se mettre dans le baudrier, mais on va tomber, quoi. On ne comprend pas comment ça peut nous porter. Pourtant, la chose à faire, c'est d'aller dans le vide pour que le baudrier nous tire. Ce n'est pas le baudrier qui vient nous chercher. C'est nous qui nous asseyons dans le baudrier, et là, la corde se tend et on est assis. Mais ce coup-là, il faut le vivre une fois. Il faut avoir confiance dans la corde. Et là, encore une fois, ce qu'il faut faire, il faut tomber pour être porté. Abraham, j'allais comprendre le lien. Donc on va continuer l'histoire d'Abraham. On arrive dans Genèse 22. Dieu demande. Alors, premier verset. Après ces événements, j'arrête tout de suite et on va voir de quel événement on parle. Qu'est-ce qui s'est passé avant, tout ça. Abraham, il était une fois. L'époque d'Abraham. Quand on lit l'histoire dans la Bible, comme ça, la Genèse, on arrive à Abraham, tout à coup, il y a beaucoup plus de détails. Avant, il y a 2-3 détails, des choses un peu bizarres, tout ça. Puis on arrive à Abraham, il y a tout de suite plus de détails. Avec Abraham, on passe de la préhistoire à l'histoire. On a l'écriture. Et avec l'écriture, on a plus de détails. On peut recouper aussi l'histoire avec l'archéologie, savoir un peu quel était le contexte d'Abraham. Abraham a passé sa jeunesse à Ur, ou Our, comme vous voulez. Où est-ce que ça se situe tout ça ? Petite géographie. Alors, en noir, vous avez la mer, en blanc, vous avez la terre. Abraham a grandi à Ur. Une civilisation très avancée. On a donc les traces avec l'archéologie. C'était une région, une vallée avec 2 grands fleuves qui étaient très fertiles. Il y avait plein de cités qui étaient des cités-états, et puis la cité la plus importante avait le pouvoir sur les autres. Et au temps d'Abraham, c'était Ur, qui était la capitale. Akkad, c'est l'empire akkadien. 100 ans avant Abraham, il a décliné, et alors Ur a pris le pouvoir, et la civilisation s'est répandue comme ça dans toute la vallée avec les 2 fleuves. Ce peuple adorait un dieu qui s'appelait Enlil, un dieu créateur, souverain. Mais plus le temps passait, plus ils inventaient aussi d'autres dieux. Le soleil, la lune, la terre, etc. Une espèce de cour mythologique autour du dieu suprême, qui au final, petit à petit, prenait de moins en moins d'importance. Et au temps d'Abraham, le roi de Ur a même demandé à ce qu'on l'adore lui, parce qu'il a dit, voilà, je suis Dieu, adorez-moi. Voilà là où a grandi Abraham. Civilisation très avancée, très urbaine aussi. Ils avaient apparemment inventé la paperasse à la française, hein, avec toute la lenteur administrative. Apparemment, il l'avait déjà sur les tablettes, voilà, comme quoi. Bon, l'histoire continue, nous apprend que Abraham s'en va vers Haran, on l'a vu déjà, plus dans le nord, pour faire du business à la frontière. Avec toute sa famille, ils sont partis donc à Haran. Et puis là, on voit qu'ils ont prospéré, qu'ils ont fait fructifier leur bétail, etc. Ils avaient une vie plus agricole. Et puis, chapitre 12, donc c'est le début de l'histoire d'Abraham dans la Bible, Dieu fait une promesse à Abraham. On l'a vu aussi, il y a du coup deux dimanches. Dans la promesse, on apprend que Dieu veut faire du bien à l'humanité. Quand on arrive au chapitre 12 de la Genèse, comme ça, ça sort du lot, ce verset. On se dit, mais Dieu, tout ce qu'il doit faire à l'humanité, c'est la faire souffrir, la faire périr, parce qu'elle ne mérite que ça. Et là, Dieu promet du bien à l'humanité. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, verset 3. Et ensuite, chapitre 13, 14, la promesse parle aussi d'un pays. Abraham s'en va de son pays, va en Canaan. Canaan est fait de collines, de montagnes, de côtes maritimes, une vallée profonde avec le Jourdain, et fertile, et puis des déserts au sud, à l'ouest. Canaan est peuplé par les Amoréens. C'est quoi encore cette bête-là ? Pareil, c'est encore toute une série de tribus, de peuples différents. Et eux aussi adorent Enlil. Et eux aussi ont plein d'autres petits dieux qui rajoutent à côté. Le chapitre 14 nous parle par exemple de Melchisédek, qui était sacrificateur du Dieu suprême. Donc dans Canaan, il y avait cette vénération pour ce Dieu suprême. Autant à Ur, où il y avait un temple d'Enlil avec des prêtres et des sacrifices pour ce Dieu suprême, autant Melchisédek était sacrificateur. Et là, en Canaan, il y avait apparemment du coup aussi un temple avec des sacrifices. Avant Abraham, au temps d'Abraham. Au chapitre 15, Abraham apprend que cette promesse de bien pour l'humanité, passera par sa descendance. Ah, ma descendance, c'est-à-dire que je vais avoir un enfant. Pourtant, ça fait longtemps. Bon, chapitre 16, il prend les choses en main, et Agar propose sa servante, ça se faisait apparemment à l'époque, que tu ne pouvais pas avoir d'enfant, ben voilà, la servante remplaçait la femme légitime, et puis ils avaient un enfant comme ça, Ismaël. Et puis, chapitre 17, Dieu apparaît de nouveau à Abraham et lui dit « Cette descendance passera pas par Ismaël, mais par un autre fils que tu auras avec ta femme. » Ça, on a vu la semaine dernière. Hein. Elle a 90 balais, ma femme. D'accord. Okay. Et bien, un an plus tard, Isaac est né. Et Ismaël est chassé. Je vais passer le détail. Voilà, Ismaël est chassé, et Isaac, c'est le fils. Et 15 ans plus tard, chapitre 22. Ça va ? On a recollé les bouts ? Allez, c'est parti. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ah, Dieu met à l'épreuve. Il y a d'autres endroits dans la Bible où Dieu met à l'épreuve les humains. Je vous en ai sorti 3 exemples pour voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Exode 16, verset 4. C'est la manne. Dieu donne à son peuple dans le désert du pain qui tombe du ciel, mais en ration limitée. Apparemment, le texte le dit pour voir s'il marche selon la loi. Comme une espèce de test d'épreuve pour voir s'il... Dans Juges 3, verset 4, Dieu parle du reste des Cananéens quand ils reviennent dans le pays pour l'investir. Le reste des Cananéens est resté là pour voir si le peuple obéira au commandement de l'Éternel. Pour voir si. Deutéronome 13, verset 3. Dieu prévient qu'il y aura des faux prophètes qui disent qu'ils parlent au nom de Dieu, mais non, en fait, ce n'est pas vrai. Il y aura des faux prophètes pour savoir si le peuple aime l'Éternel de tout son cœur. Donc vous voyez là, à chaque fois, ce qui revient, le but est de savoir, de voir si une qualité, du coup là, pour le peuple, d'une personne est vraie. Voir si c'est vrai. Qu'est-ce que Dieu voulait voir chez Abraham ? Je pose la question, vous la retenez, et on continue. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Hein ?» Dieu dit, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Isaac, le fils d'Abraham. Il devait avoir à peu près 13, 14, 15 ans à cette époque. Isaac, c'est enfin le fils légitime, puissant héritier. On ne s'imagine pas, mais Abraham, il avait un moment, il parlait qu'il prend 300 de ses plus valeureux hommes pour aller combattre des énormes rois des peuples dont on parlait tout à l'heure. Enfin, il avait une puissance politique impressionnante et c'était seulement 300 de ses meilleurs hommes. Et, enfin, il faut imaginer la richesse de ce gars-là, quoi. C'était un peuple qui se baladait, quoi. Isaac, c'était l'héritier, attendu depuis longtemps. Porteur de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. L'unique fils, je mets un point d'interrogation parce qu'il y avait Ismaël quand même. Là, le texte dit « ton unique ». Le fils de sa femme. Et le fils aimé. C'est quand même dingue que le texte appuie cet aspect. Hein. Il y a une relation entre Abraham et Isaac qui était sentimentalement forte. C'est dingue, hein? C'est normal, vous allez me dire. Moi, je ne suis pas papa, donc je ne peux pas comprendre. Enfin bon, j'imagine de loin. Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Morija. Cool, on va faire des petites vacances. Allez, je pars avec mon gamin, tout ça, hop. Ils sont dans Canaan. Ils habitent en ce moment à Beersheba. Parce qu'ils étaient nomades, ils se baladaient, hein, d'accord. À ce moment-là, ils étaient à Beersheba. C'était bien dans le sud, à la frontière avec le désert. En dessous, au sud de Beersheba, il n'y avait plus que du sable et du désert. Eh bien, va-t'en avec ton gamin faire des petites vacances à Morija. Morija, voilà, c'était un peu plus au nord. C'était juste à côté de là où était Melchisédek, d'ailleurs. Intéressant. Où il y avait apparemment, du coup, un temple pour le Dieu suprême. Bon, c'était sans bornes, ça se fait, hein, à pattes avec un âne, ça se fait. En quelques jours, quoi. Avec une tente, un trekking, un sac à dos. Okay. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Ah bon ? D'accord. Est-ce que vous avez déjà tué un animal ? Bon, à part une araignée ou une mouche ou une guêpe, hein. Je me rappelle, une fois, on était chez la grand-mère de Joséphine, une piscine, et il y avait, je nageais tranquillement, tout ça, voilà, dans la piscine, et puis tout à coup, je sais plus, c'était toi qui me disais, attention, il y a un serpent. D'accord. Il y avait un serpent dans l'eau. Bon, du coup, une couleuvre, quoi. C'est pas non plus la fin du monde. Et par contre, sa grand-mère voulait absolument que je la tue. Donc j'ai pris la pince, monseigneur, machin, hop. Mais je me rappelle très bien le sentiment que j'ai eu après. C'était très bizarre. J'ai tué cette bestiole qui a rien fait à personne. J'ai ôté la vie à cette bestiole. Ah, c'est une couleuvre, vous allez me dire. Enfin voilà, moi j'ai pas appris à dépecer, à tuer un lapin et le dépecer pour en faire pour le manger quoi. Il y en a qui ont l'habitude de ça peut-être dans cette salle, je sais pas. Surtout les anciens. À l'époque, hein, chacun avait un petit jardin avec des poulaillers. T'sais. Bon. Imaginez-vous tuer un animal, c'est déjà pas mal. Vous ôtez la vie, le sang coule. Eh bien, eux, ils faisaient ça. C'était leur façon de communiquer avec les dieux. Ils tuaient des animaux. Les sacrifices. Apparemment, tout le monde en faisait à l'époque. Après, il y avait le Dieu suprême, mais il y avait aussi tous les autres dieux. C'est quand même dingue. Ça remonte jusqu'à Caïn et Abel. Ils ont fait des offrandes pour Dieu. La Bible nous dit aussi que le petit-fils d'Adam, c'est à partir de ce moment-là où les hommes ont eu cette tendance à aller vers Dieu. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Genèse 4, verset 26. On commença à... C'est-à-dire qu'après, il y a toute une tradition qui s'est mise en place. Les êtres humains ont essayé à chercher à aller vers Dieu. Pourquoi ? Il devait y avoir un sentiment général, global, qu'il y avait un problème entre Dieu et l'homme, qu'il y avait une espèce de chose à aller chercher chez Dieu. Et quelque chose pour se faire racheter, pour se réconcilier avec Dieu. Il y avait une faveur à aller chercher chez la divinité. Et ça, c'était répandu partout. Il n'y avait pas d'athée ou quoi. Tout le monde était croyant. Il y avait des dieux. Point. Et on faisait des sacrifices pour chercher la faveur des dieux. Et puis, il y avait différents types de victimes. Je parlais d'une araignée, bon, ça va, une couleuvre. Un agneau qui n'a jamais rien fait, oh, le pauvre. Un être humain. Il le faisait apparemment aussi, c'était peut-être un peu moins répandu, mais enfin, aujourd'hui on a encore des exemples. Hein. Et puis, je ne sais pas moi, les Aztèques par exemple, mais apparemment aujourd'hui ça se pratique encore dans certaines sectes. Sacrifice humain. Offrir un homme, comme s'il y avait une valeur supplémentaire à ce que ce soit un être humain. Bon. Abraham, c'est pas seulement juste, il prend un homme et puis voilà, c'est son fils. C'est pas seulement son fils légitime, son héritier, attendu depuis longtemps, son fils unique. Il n'y en a pas d'autre, et il n'y a pas beaucoup de chances d'en avoir un autre. Il est jeune, il est innocent. Je vous mets au défi de chercher une victime plus importante, avec plus de valeur, qu'Abraham aurait pu offrir à Dieu. Dieu demande l'offrande ultime. Pour avoir la faveur de Dieu, qu'est-ce que Dieu te demande ? J'ai eu quelques discussions avec des jeunes sur qui se posaient la question de la conversion. Ils étaient en intérêt, il y avait un point, vous avez compris, voilà. Dieu, il veut me pardonner, il peut m'éviter l'enfer, il faut que je me convertisse. Bon, ok, on discute. Et alors, le passé de toutes ces personnes était à chaque fois différent. Par contre, une chose était commune, était la même, c'est qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient besoin de tout donner à Dieu. Et ça... Ça fait peur. Qu'est-ce que Dieu te demande ? Tout. C'est-à-dire qu'il faut que j'abandonne ce truc-là. Pourtant, j'aime bien boire avec mes potes, etc. J'aime bien aller coucher à droite à gauche avec n'importe qui. J'aime bien, si, j'aime bien ça. Ça, je peux pas. Ok, Dieu, c'est bien, il est gentil, mais bon, ça, il faut que je garde pour moi. J'ai quand même beaucoup d'argent, quoi. Je vais pas non plus donner ça à tout le monde. Je peux pas tout donner à Dieu, c'est pas possible, quoi. Voilà, il y a un problème. Dieu me demande tout. Trois petits points. Versets 3 à 10. Donc, on continue. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Première chose, à l'aube. Alors on s'imagine que Dieu lui a peut-être parlé en rêve pendant la nuit. Les oiseaux le chantent, tout ça, il fait encore nuit dehors, il y a peut-être une petite lueur à l'horizon, tac, 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 on entend du bruit dehors, il est en train de couper du bois, tout ça. Il est chaud, Abraham, allez, on va partir, il va réveiller Isaac. Bon, je suis prêt, on y va. À l'aube. Dieu lui demande d'aller offrir son fils en sacrifice, et lui, le matin, il est au taquet. Sans hésiter. Ça a duré 3 jours de chemin. 3 jours de marche avec le gamin à côté. Abraham sait ce qui va arriver. Vous imaginez ce qui a pu passer dans sa tête, comment il a pu ruminer ce qu'il allait faire. Verset 5. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, parce que du coup, voilà, il y avait deux serviteurs avec lui, un petit âne, tout ça, puis avancé. À un moment donné, il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer. » Pour adorer. Puis, nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Le feu, vous savez, il y avait des petites... parce qu'il n'y avait pas de briquet, quoi. Donc, ça va avec le feu, là, c'est bon, vous suivez. Le feu et le couteau, ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, « Mon père, » lui répondit, « Hein ?» Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» C'est vrai, il n'est pas bête non plus, Isaac. Qu'est-ce qui s'y passe ? Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau. Nous reviendrons. Est-ce que Abraham espérait ? Est-ce que Abraham savait ? Est-ce que Abraham croyait ? La Bible ne dit pas plus, mais il répond à ses serviteurs, « Nous reviendrons. » Il y a un schéma qui devait être logique dans la tête d'Abraham. Dieu a promis une promesse qui va avec Isaac, explicitement mon fils Isaac. Maintenant, Dieu me demande de tuer Isaac. Bon, on n'est peut-être pas tous des matheux dans cette salle, mais c'est simple, cette équation, il y a un problème. Ça ne marche pas. Vous êtes d'accord ? Bon, Dieu a promis, c'est vrai, Dieu m'a promis. Ça, il ne peut pas me mettre en doute. Dieu m'a promis, on ne sait pas comment il lui est apparu ou quoi, mais bon, ça devait être clair pour lui. Dieu lui a promis. Dieu lui a promis Isaac. C'était clair aussi, voilà, il lui a dit explicitement, tu auras un fils par Sarah ta femme, il s'appellera Isaac, c'est lui qui sera porteur de la promesse. Dans le chapitre 17. Dieu demande, là aussi, il lui a demandé, enfin 3 jours avant, c'était le cas, il lui a demandé. Alors comment, pareil, en rêve ou quoi, on ne sait pas. Bon, bah, du coup, il doit y avoir un truc. Tuer Isaac, il y a quelque chose. Dieu va se pourvoir lui-même. Logiquement, dans la tête d'Abraham, c'est simple. Dieu m'a promis Isaac, Dieu me demande de tuer Isaac. Il sait ce qu'il fait. Ok, bon, voilà. Si Dieu a promis Isaac, Isaac vivra. Oui, c'est simple comme bonjour. Littéralement, le texte dit « Dieu se montrera comme bétail ». Alors là, nous, notre petite tête de chrétien, « Oh là 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 là, oui, d'accord, oui ». Bon, voilà ce qu'il dit à cette époque-là. Ils avaient déjà compris que Dieu se chargera de l'offrande. Verset 9. « Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac. » On ne sait pas comment Isaac réagissait là, il n'y a aucune information. Bon, bah, il ligote son fils. Il le met sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors, il y a des tonnes de peintures, de dessins, tout ça, qui représentent Abraham comme ça avec le couteau en l'air. Puis il y a un ange qui attrape sa main juste in extremis. Le texte nous dit simplement qu'Abraham prend son couteau. Arrêt sur image. Abraham prend son couteau. Mettez-vous un peu dans la peau, essayez de mettre dans la peau d'Abraham à ce moment-là. J'ai votre fils sur l'autel. Il a fait 3 jours de marche, ça j'ai bien ruminé. Il est comme ça, sur l'autel, ligoté, vous prenez le couteau, il n'y a plus qu'une chose à faire, et c'est fait. Le texte ne dit pas que ça s'est fait à la va-vite, tout ça. Moi, je vois bien une petite musique de western, comme ça, bien lente, le suspense qui monte. Il devait passer du temps avec son couteau à la main. Enfin, c'est pas rien ce qu'il va faire. Abraham veut tout donner sans hésiter. Encore une fois, pour avoir la faveur de Dieu, es-tu prêt à tout donner à Dieu ? Est-ce que je suis prêt à tout donner à Dieu ? Pour avoir la faveur de Dieu, Dieu offre. Versets 11 à 14. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Hein ?» L'ange dit « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien. » Car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. La preuve de la foi. Dieu avait mis Abraham à l'épreuve. Dieu voulait savoir quelque chose d'Abraham. Dieu voulait voir quelque chose d'Abraham. Et Abraham a fait preuve de foi. Dieu voulait voir la foi d'Abraham en action. Donc Dieu lui dit 2 choses. J'ai reconnu que Abraham craint Dieu. Ça veut dire quoi, craindre Dieu ? Bon, voilà, il y a un peu la notion de respect, d'écoute, d'obéissance. Hein, tu me crains. Et Abraham offre tout à Dieu. Abraham est prêt à tout m'offrir. Voilà les deux conclusions que Dieu tire. Abraham devait confirmer sa croyance. Hein, vous vous rappelez, dans Genèse 15, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Déjà, avant. Maintenant, il devait confirmer sa croyance par ses actes. Oui, ce que j'ai dit, Genèse 15, verset 6. Il croit et Dieu le considère comme juste. Mais Dieu veut voir si sa croyance influence ses actes. Jacques, dans le Nouveau Testament, nous parle de ce texte. Jacques chapitre 2, verset 17. Il parle du principe de la foi. Comment la foi fonctionne ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais, si, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, par contre, par mes œuvres, je peux te montrer ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile ? La foi sans les œuvres est stérile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. C'est le verset que j'ai nommé tout à l'heure. Il fut appelé ami de Dieu. Ainsi s'accomplit ce que dit Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il ne parle plus d'œuvres là. Mais les œuvres font partie de la croyance. Les œuvres découlent de la croyance. Les œuvres sont la partie visible de la croyance. Ça va ? C'est pas trop des notions un peu abstraites là ou... En gros, la foi, c'est croire plus agir. C'est un package. Voilà comment Jacques explique les choses. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il sera pourvu. Vous vous rappelez ce qu'avait dit Abraham, hein ? Hop, petit retour en arrière. Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a pourvu. La victime est remplacée. Abraham l'avait dit, Dieu va se pourvoir lui-même de la victime. Abraham acceptait de tout offrir à Dieu, mais il avait la foi que Dieu allait faire vivre Isaac. Il ne savait pas comment, mais il avait cette foi-là. Et Dieu a donné la victime. L'offrande ultime est venue de Dieu. Voilà, petite blague. C'est comme si Dieu disait, tiens, voilà un cadeau, ne l'ouvre pas, offre-le-moi. Ok, cool. Dieu donne Isaac, tiens, par contre, rends-le-moi, s'il te plaît. Pour avoir la faveur de Dieu, crois-tu que ce que tu offres vient de toi ? Isaac était donné par Dieu. Donc Abraham, en fait, il faisait que rendre à Dieu ce qu'il avait reçu. Je reviens sur le principe de la foi qu'on a vu tout à l'heure. Si on considère que la foi, c'est à la fois croire et agir, nous, en tant qu'êtres humains, avec un code génétique dans lequel il y a écrit qu'on était religieux, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est toujours comme ça, on se dit, ok, croire, ça va. C'est intellectuel, ça va marcher. Agir, ça va bien marcher aussi, je suis compétent. Donc mes œuvres, je vais pouvoir les offrir à Dieu. C'est cool. Et bien justement, au même moment, Abraham apprend l'inverse. C'est que Dieu lui demande de tout offrir, et Abraham au final, il n'offre pas son fils. C'est Dieu qui offre l'offrande. Abraham, c'est dingue, hein, mais Abraham avait la foi que Dieu allait s'offrir lui-même, déjà au temps d'Abraham.
Versets 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit « Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. » Dieu ne dit pas « parce que tu m'as offert Isaac ». Parce que tu ne m'as pas refusé, Isaac. Abraham vivait dans un monde où on faisait des sacrifices, où on faisait des offrandes pour avoir la faveur des dieux. Dieu lui avait demandé l'offrande ultime, son fils unique. Et Abraham, dans ce même élan que tous ceux qui l'entouraient, il voulait offrir à Dieu le maximum. Dieu lui demande le maximum, il veut lui offrir le maximum. Pour toujours cette dynamique d'aller chercher la faveur de la divinité. Mais là, Dieu apprend quelque chose de très important. C'est que c'est Dieu lui-même qui paye ce qu'il faut pour avoir la faveur de Dieu. Il y a l'évangile dans Genèse 22. Vous avez vu ce que Dieu rappelle Abraham, il avait déjà promis avant, mais là il lui rappelle, parce que tu as fait ça, j'apporterai du bien à toute l'humanité, alors qu'elle ne mérite que souffrance et mort. Dieu est en train de lui dire, parce que tu as fait ça, il n'y aura plus besoin d'aucun sacrifice, il n'y aura plus besoin d'aucune offrande pour chercher ma faveur. J'apporterai du bien à toute l'humanité, je serai réconcilié. Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'Abraham a fait ? En fait, c'est pire qu'une classe de... Bon, il n'a pas rien fait non plus. À l'aube, il s'est levé, vous voyez ? Il a pris son fils, il est parti, ouais, il a monté l'autel, tout ça, il a mis le bois, il a fait les choses. Ces choses-là découlaient simplement d'une obéissance, de sa foi, qu'il allait se passer quelque chose, il a fait ça. Mais ce n'est pas pour ses actions faites qu'il a un mérite auprès de Dieu. Dieu reconnaît sa foi parce qu'il donc il n'a pas offert son fils, parce qu'il ne l'a pas refusé. Je reprends la petite image de moi qui essaie de nager. Pour apprendre à nager, j'ai agi sans hésiter jusqu'au moment fatidique, ne pas refuser de couler. Ne pas refuser de couler. Et l'eau m'a porté. Quand j'ai appris le rappel, j'ai agi sans hésiter jusqu'au moment fatidique, ne pas refuser de tomber. Et la corde m'a porté. Abraham, pour apprendre la foi, il a agi sans hésiter jusqu'au moment fatidique, ne pas refuser d'offrir son fils. Et Dieu a pourvu. Je trouve que c'est une magnifique image de notre vécu de la foi avec Dieu. Dieu veut nous voir agir. Il veut voir notre foi en action. Et cette foi en action,
c'est beaucoup ne pas refuser. Ne pas refuser de donner. Ne pas refuser tout ce qu'on a, tout ce qui fait de nous, nous, notre identité, notre emploi du temps, les choses tout à fait pratiques de notre vie, des choses voilà, grandes, pratiques. Joséphine va passer les ECN cette semaine. C'est 5 ans de révision en 3 jours. Et tu vas te classer voilà, nationalement. Et puis, si tu es bon, ok, tu auras une spécialité. Si tu n'es pas bon, tu seras, je sais pas moi, un petit médecin quelque part. Voilà. Enfin, c'est tout. Mais dans les grandes choses comme dans les petites choses, ne pas refuser toute ma vie. Dieu, envoie-moi où tu veux, etc., etc. Ne pas refuser. Pour avoir la faveur de Dieu, ne refuse pas non plus sa grâce. Voilà, je vous laisse là-dessus.